Bonjour tout le monde, je m'appelle Maryse Damcourt, je suis étudiante au doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Donc ça fait que dans le fond, je lis beaucoup de livres, je suis des cours, je m'informe sur plein de théories et tout ça m'inspire beaucoup et ça m'apporte beaucoup. Et j'ai eu l'idée de mettre ça à profit pour vous partager ce que j'apprends, vous dire un peu comment moi ça m'inspire dans ma vie quotidienne pour dans le fond que toutes ces heures-là que je mets à étudier profitent pas seulement à moi et à mes futurs patients. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un livre sur l'attachement que j'ai lu, qui a été écrit par une pédopsychiatre, donc une femme, une chercheure et clinicienne qui travaille auprès des enfants, principalement à Paris, qui s'appelle Nicole Guédenet, et puis qui a écrit ce livre qui s'appelle « L'attachement, un lien vital ». La théorie de l'attachement fait partie des grands courants de la psychologie et réfère aux travaux de John Bowlby et Mary Ainsworth. Personnellement, je trouve cette théorie-là vraiment intéressante. Entre autres, elle me permet de mieux comprendre les comportements de mon enfant qui a 2 ans et demi. Donc, ça aide à comprendre les tout-petits, pourquoi ils pleurent, ils crient sans raison apparente. Et comme toute bonne théorie en psychologie, quand on comprend mieux les comportements dans l'enfance, ça aide aussi à comprendre les comportements à l'âge adulte. Parce qu'en fait, nous, les adultes, on est des enfants qui avons grandi, donc il y a des éléments, des vestiges de l'enfance qui sont encore actifs lorsqu'on est adulte. Donc la théorie de l'attachement permet aussi de mieux comprendre les réactions dans les relations interpersonnelles, donc par exemple dans les amitiés ou les relations de couple. Donc l'idée à la base de la théorie de l'attachement, c'est que l'être humain serait intrinsèquement un être social. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez connu. Mais ça dit que même quand on est le nourrisson naît et il y a déjà à l'intérieur de lui ce qu'on appelle un système d'attachement. Donc ça, c'est quoi un système? Ben c'est un ensemble de comportements, d'émotions, d'attitudes qui sont dirigés dans le but de créer l'attachement avec ce qu'on appelle dans la théorie des figures d'attachement ou des donneurs de soins. Donc, dans le fond, habituellement, c'est le papa et la maman qui sont les principaux donneurs de soins et qui vont tenir lieu de figures d'attachement pour l'enfant, pour le bébé. Et puis, dans le fond, le système d'attachement, il est déclenché par différentes manières. Donc, l'enfant est, disons, au neutre et tout à coup, sa mère s'éloigne ou il y a un inconnu qui entre dans la pièce, une personne non familière ou encore il y a seulement des choses un peu effrayantes pour l'enfant qui arrive. Donc là, ça va déclencher ce qu'on appelle le système d'attachement. Donc là, l'enfant va, par différents moyens, essayer de retrouver la proximité avec sa figure d'attachement. Donc, il va pleurer, il va s'accrocher à sa mère pour pas qu'on l'enlève de ses bras. Il va aussi faire différents signaux, là, comme sourire, essayer d'attirer l'attention pour retrouver la proximité. Donc, le système d'attachement a 2 objectifs. Il y en a un que j'ai déjà nommé, c'est l'objectif externe, c'est d'être proche de la figure d'attachement, de la voir avec ses yeux ou de la savoir disponible. Le deuxième objectif, c'est un objectif interne, c'est que dans le fond, l'enfant, le bébé, pourquoi il fait tout ça, pourquoi il crie, il pleure, il s'accroche, il recherche l'attention, eh bien c'est pour s'apaiser intérieurement, créer un sentiment de sécurité interne. Une autre chose que l'auteur souligne dans le livre, c'est que le besoin d'attachement, donc la réactivité, à quel point le système d'attachement est réactif, donc autrement dit, à quel point le bébé ou l'enfant pleure facilement. Donc ça va varier avec l'âge. Donc chez le nourrisson, c'est beaucoup plus présent. Le nourrisson a besoin de toucher, de sentir l'odeur, d'entendre la voix, d'entendre le cœur de sa mère ou de son père. Là, habituellement, c'est plus la mère à cet âge-là. Ensuite, avec le temps, eh bien, ça change. L'enfant va avoir besoin d'avoir... de pouvoir voir sa figure d'attachement, qu'elle ne soit pas trop loin, mais il n'est plus nécessairement obligé de la toucher. Et en vieillissant, mais ça vient un petit peu plus. L'enfant peut être, par exemple, dans une autre pièce, jouer, et sa mère est dans une autre pièce, et tout à coup, le téléphone sonne, sa mère répond, se met à engager la conversation avec quelqu'un, et là, tout à coup, l'enfant a besoin de l'attention de la mère. Mais pourquoi il fait ça? C'est pas pour être tannant, c'est parce que dans son besoin d'attachement, son système d'attachement veut s'assurer que sa mère reste disponible, même si elle est manifestement en train de mettre son attention ailleurs. Donc, moi, je suis maman et j'imagine que les parents qui écoutent, vous pouvez vous retrouver là-dedans. Quand on fait pas grand-chose, notre enfant nous laisse faire pas grand-chose, mais dès qu'on met notre attention ailleurs, souvent, il y a comme un désir de s'assurer, « OK, est-ce que maman, est-ce que papa est toujours là? Est-ce que je peux toujours avoir son aide en cas de besoin? » Ensuite, le besoin d'attachement va varier aussi avec l'état de l'enfant. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est fatigué? Donc, encore une fois, pour prendre le même exemple, un enfant qui a, disons, 3 ans, qui d'habitude joue très bien tout seul, ben quand il est malade, il a besoin de nous toucher, il a besoin de nous coller. C'est simplement que son système d'attachement devient plus réactif, comme je l'ai dit tantôt. Et finalement, ça varie aussi selon les contextes. Donc, si on est à la maison, avec des gens qu'on connaît, avec des lieux, des jouets connus, eh bien, l'enfant a moins besoin d'avoir cette sécurité-là liée à la figure d'attachement versus si on va rencontrer des nouvelles personnes dans des nouveaux lieux. Donc là, le système d'attachement devient un petit peu plus réactif. Donc, idéalement, la figure d'attachement serait capable de bien répondre aux besoins d'attachement de l'enfant. Et ça, ce que ça va permettre surtout, c'est que l'enfant va pouvoir réguler sa peur. Parce qu'en fait, on le sait, les êtres humains, on est très vulnérables à la naissance et pendant quand même longtemps. Donc, l'enfant a comme une peur liée à son désir de survivre, dans le fond, qui est là. Et une bonne réponse à son besoin d'attachement va aider à réguler sa peur puis à développer une genre de confiance de base qui va ensuite le suivre toute sa vie. Confiance de base envers lui-même, envers les autres et envers le monde. Et puis, on va détailler un petit peu plus loin qu'est-ce qu'il faut faire pour être une figure d'attachement qui répond aux besoins de l'enfant. Mais disons, là, simplement pour l'instant, qu'on a 2 fonctions en tant que parent ou figure d'attachement des enfants. Premièrement, on est comme l'havre de sécurité. Donc ça le dit vraiment, c'est comme l'enfant a besoin de savoir qu'il y a comme un endroit, un lieu sécur où ici, il n'y a pas grand-chose qui peut lui arriver. Et deuxièmement, on est aussi la base de sécurité. Donc, l'enfant peut aller explorer le monde, peut aller jouer, se déplacer, rencontrer d'autres personnes, toucher des textures, mettre des choses dans sa bouche. Et il sait que nous, on est là et on est sa base de sécurité qui lui donne la possibilité d'aller explorer le monde. Et c'est là qu'on arrive au deuxième système. Bon, il y en a sûrement plus que 2, mais dans la théorie, il y en a 2. Il y a le système de l'attachement et ensuite le système de l'exploration. Et l'idée, c'est que les 2 sont s'annulent l'un l'autre. Donc, si l'enfant, son besoin d'attachement n'est pas répondu, il ne peut pas aller explorer. Il va enclencher son système d'attachement, chercher la proximité, chercher l'attention de la figure d'attachement. Donc, c'est pour ça que lorsque le besoin d'attachement est bien répondu, là, le système d'exploration peut être enclenché. Et ce système-là, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il permet à l'enfant d'aller explorer le monde puis de développer son sentiment de maîtrise, son sentiment qu'il est capable, qu'il peut compter sur soi et ses ressources personnelles. Donc, revenons au besoin d'attachement. Donc, comment ça évolue dès la naissance de l'enfant jusqu'à environ 3-4 ans? Donc, la première phase de 0 à 3 mois, bien, l'enfant n'est pas encore capable de faire des comportements dirigés. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas tendre les bras vers la personne. Il y a comme un peu le potentiel de s'attacher à plusieurs figures d'attachement. On note cependant quand même une préférence pour les humains. Donc, l'enfant de 0 à 3 mois va quand même plus faire de comportements ou davantage regarder les figures humaines, aussi ce qui est familier, donc comme les odeurs familières, une voix familière. Donc ici, ça explique un peu la prédominance de l'attachement vers la mère qui a porté l'enfant parce que l'enfant a déjà entendu cette voix-là et connaît cette odeur-là. Ensuite, la deuxième phase, c'est de 3 à 6 mois. Donc là, l'enfant développe une capacité à se contrôler, comme il va pouvoir tendre les bras vers sa mère ou son père pour dire « je veux que tu me prennes dans les bras ». Il va être capable aussi de s'accrocher, de s'agripper pour ne pas quitter les bras de sa figure d'attachement. Il commence à être capable de différencier les gens. Donc là, c'est là qu'il va apparaître le sourire social sélectif. Donc ça veut dire que l'enfant sourit à quelqu'un et non pas souri simplement par réflexe ou parce que ça exprime une émotion. La troisième phase, c'est vers 6 à 9 mois jusqu'à début 3 ans. Donc, c'est vraiment l'établissement de la base de sécurité. Donc, selon la théorie d'attachement, en tant que parent, notre rôle là, pour établir ce sentiment de confiance-là chez notre enfant, c'est vraiment de 0 à 3 ans que ça se joue davantage. Mais en même temps, de ce que je vois dans mes cours, il n'est jamais trop tard. Là. L'être humain, on est vraiment capable de changer tout au long de notre vie, mais il y a quand même une phase un peu plus sensible, si je pourrais dire, pour la sécurité, l'attachement de 0 à 3 ans. Ensuite, la dernière phase, pour ce qui est de l'enfance, qui commence vers 2 ans. Donc, c'est quand il va y avoir l'émergence d'un partenariat. Donc là, l'enfant commence à pouvoir prendre en compte un petit peu le point de vue de l'autre. On parle ici de compréhension mutuelle. Donc l'enfant a ses besoins, ses intentions, mais il peut commencer tranquillement à comprendre que sa figure d'attachement en a aussi. Des besoins et des intentions qui sont peut-être un petit peu différents. Donc c'est ici que l'enfant peut développer le sentiment gratifiant quand on a une intention commune. Oh, on a un objectif commun, on est ensemble là-dedans. Et aussi qu'il peut développer son acceptation. Parfois, il va développer sa capacité d'abandonner ou d'ajuster ses propres buts, ses propres désirs pour que ça convienne à l'autre. Et ça, c'est vraiment une étape importante pour le vivre ensemble, le vivre en société. Et justement, l'adulte, la figure d'attachement, comment est-ce qu'on peut bien répondre aux besoins de notre enfant? Eh bien, c'est par un autre système. Donc, j'ai menti, il n'y en a pas seulement deux. Il y en a un troisième, c'est le système du caregiving dont nous parle l'auteur dans son livre, qui est dans le fond d'être alerte aux besoins des autres. Donc ça, c'est un système qu'on a tous en tant qu'humain. Selon la théorie, on aurait une nature bienveillante envers les autres. Ce système-là qui pourrait être déclenché lorsqu'on perçoit chez l'autre des besoins. Donc il y a deux objectifs à ce système-là. Tout d'abord, c'est de protéger son enfant en se rapprochant et ensuite de l'accompagner dans l'exploration. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Bien, c'est vraiment de offrir à notre enfant notre présence physique tout d'abord et aussi une disponibilité émotionnelle. Ce qu'on appelle aussi la responsiveness, donc c'est un mot que l'auteur a gardé en anglais dans le livre. Donc ça, c'est de percevoir et d'interpréter les signaux que l'enfant donne, de répondre quand même rapidement et d'être prévisible et être cohérent. Donc dans le fond, c'est notre manière dont on répond. Est-ce qu'on est sensible à notre enfant? Et est-ce qu'on répond dans un délai qui est raisonnable et aussi de manière prévisible et toujours la même chose? Donc, on le sait, les parents, on se le fait dire très souvent, l'important, c'est d'être constant. Quand on dit une règle, on l'applique jusqu'au bout. Et bien ça va nourrir, dans le fond, le besoin de sécurité de notre enfant. Ensuite, c'est d'accepter les besoins d'attachement de notre enfant. Donc, parfois, notre enfant est... On a peut-être plus parce qu'il est moins bien, il se passe quelque chose dans sa vie, une source de stress. Donc, c'est normal que l'enfant ait des besoins d'attachement. Et vraiment, dans ce livre-là, l'auteur insiste que ce ne sont pas des caprices que l'enfant fait. C'est vraiment parce qu'il est en train d'essayer de réguler sa peur, son besoin de sécurité. Donc, de tolérer les expressions de détresse de notre enfant et d'avoir une envie sincère d'y répondre. Et ici, là, je vais sortir un peu du livre et j'ai envie de citer un de mes professeurs à l'université, Maxime Drouin, qui dit que les meilleurs parents vont répondre aux bons besoins que l'enfant exprime une fois sur trois ou deux fois sur trois au mieux, mais que 100% du temps, l'intention d'y répondre est là. Et c'est plus ça qui est important. L'auteur, dans le livre, parle d'atmosphère relationnelle. Donc, c'est pas grave si on se trompe en tant que parent, mais si notre intention bienveillante est là, la majorité du temps, l'atmosphère relationnelle est bienveillante et le besoin d'attachement, le risque d'être répondu. Ensuite, il y a cette notion que j'ai beaucoup aimée de mirroring, encore un mot anglophone. Donc, c'est comme de miroiter l'émotion de notre enfant. Donc, quand notre enfant vit une émotion, disons, de la colère ou de la tristesse, bien, on va essayer d'imiter un petit peu l'expression non-verbale de notre enfant par notre expression faciale, par notre ton de voix, mais, et l'auteur souligne, en ralentissant. Donc, si l'enfant parle vite parce qu'il est en colère, on peut prendre un ton un petit peu en colère, mais en ayant légèrement plus lentement que l'enfant. Donc, l'auteur n'explique pas pourquoi, mais semblerait que ça aide à l'enfant à comme accepter, valider son émotion et surtout sans être submergé par l'émotion du parent. Donc, quelque chose qui est à ne pas faire, mais encore une fois, si on le fait de temps en temps, c'est pas grave, c'est que l'enfant réagit et on réagit plus fort que lui. Donc ça, ce que ça fait à l'enfant, c'est le contraire de la régulation émotionnelle, c'est qu'il est en train d'apprendre que sa réaction émotionnelle entraîne encore plus d'émotions, donc il apprend pas la courbe normale d'une émotion qui est en fait, elle monte, ça dure 60 à 90 secondes, et puis elle descend. Donc là, je suis sortie un petit peu du livre. J'amène d'autres connaissances qui viennent de d'autres sources. Revenons au livre. Le parent aussi doit avoir une capacité réflexive. Donc, comprendre ses agissements à lui et ceux de son enfant aussi. Donc, c'est comme si le parent, on doit être faire la régulation émotionnelle et comprendre les désirs, tout ça, de nous-mêmes, mais aussi de notre enfant. Donc, c'est vraiment une double tâche, et triple si vous avez plusieurs enfants, quadruple, etc. Le parent doit essayer de s'ajuster. Donc, quand on fait des erreurs, c'est de le reconnaître, de même le nommer à notre enfant et de corriger nos comportements. Et finalement, de soutenir notre enfant dans son exploration. Donc ça, c'est tout un autre pan que je vais moins développer et qui est moins développé dans le livre. Mais dans le fond, l'enfant, s'il veut, vers 2 ans et demi, faire tout lui-même. J'avais une collègue qui m'a parlé de sa phrase magique qui fonctionne très bien avec ma fille. C'est « Fais-le toute seule, mais si tu as besoin d'aide, demande-le-moi. » Donc, de montrer à l'enfant « Oui, tu es capable, vas-y, mais si tu as besoin d'aide, je suis là. » Donc, selon la manière dont l'adulte répond aux besoins d'attachement de l'enfant, l'enfant va développer son style d'attachement. Donc, lorsque son système d'attachement se déclenche, parce qu'il fait face à un stress, comme on l'a expliqué tantôt, eh bien, à quoi ça ressemble ce système d'attachement-là? Parce que c'est pas pareil chez tous les enfants. Je pense que vous l'avez sûrement remarqué. Donc là, ici, on se réfère aux travaux de Mary Ainsworth, qui était l'élève de John Bowlby. Donc, vraiment deux figures très importantes dans la théorie de l'attachement. Donc, Mary Ainsworth, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé une expérimentation dans laquelle on place une mère, la figure d'attachement, habituellement c'était des mères à cette époque-là surtout, avec son enfant, et on place l'enfant dans une situation de stress. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'il va y avoir une personne que l'enfant ne connaît pas qui va venir dans la pièce. La mère va quitter la pièce, va revenir, elle va quitter encore une autre fois, elle va revenir. Donc finalement, c'est vraiment des éléments. Donc l'enfant n'est pas chez lui, c'est un nouveau contexte, il y a une personne étrangère, sa mère quitte. Donc c'est des éléments qui normalement déclenchent le système d'attachement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on observe c'est quoi les comportements de l'enfant lorsque sa mère revient dans la pièce. Et l'idée, c'est que si le parent, lui, peut changer un peu son comportement parce qu'il est devant les expérimentateurs, bien l'enfant, non. Il va agir selon vraiment un patron d'attachement qui est prévisible et qui reflète vraiment la relation qu'il a développée avec son principal donneur de soins, sa figure d'attachement. Donc, ce qu'on a trouvé avec la situation étrange, c'est que la plupart des gens, là, environ 60% des bébés, et là, j'ai pas nommé, mais cette expérience-là se fait avec des jeunes enfants là, d'environ 14-15 mois. Là. Donc, la plupart d'entre eux, 60%, vont avoir ce qu'on appelle un attachement sécure. Donc, c'est un attachement dans lequel ils se sentent libres d'exprimer leurs besoins à leur donneur de soins. Donc, lorsque la maman va quitter la pièce, ben, l'enfant va protester. Il ne veut pas que sa mère quitte. Mais lorsque la mère va revenir, ben, il va exprimer du plaisir, il va rechercher la proximité avec sa mère. S'il a trouvé ça un peu trop stressant, ça se peut aussi qu'il pleure un petit peu pour exprimer là, qu'il a trouvé ça difficile. Et puis rapidement, il va être consolé et va être capable de retourner jouer. Donc vous voyez que son système d'attachement va être déclenché, mais pas trop longtemps. Rapidement, ça va être le système d'exploration qui va revenir. Et chez ces enfants-là, il y a vraiment le plus bas niveau de cortisol, donc le stress est vraiment le plus bas chez ces enfants-là. Donc, le niveau de cortisol, c'est une hormone qu'on a dans le sang et qui reflète quand même assez bien la quantité de stress qu'on vit là, habituellement. Un deuxième style d'attachement, c'est l'attachement insécure évitant. Donc ça, ce serait environ 20 % des enfants. Donc eux, c'est comme si ces enfants-là avaient appris qu'ils ne doivent pas montrer leurs besoins d'attachement. Donc ils vont détourner leur attention pour ne pas trop penser à la figure d'attachement parce que quand même, ils en ont vraiment besoin. Ils vont faire peu de manifestations affectives, donc pas d'éclats de joie quand la mère revient. Et ils vont pas beaucoup faire de comportements de base de sécurité, donc demander d'être collé, d'être pris dans les bras, ce genre de choses-là. Et aussi, ils semblent peu affectés par la séparation. Ils vont même éviter la proximité avec la mère et ils vont plutôt montrer un intérêt pour les jeux. Donc, l'auteur a dit que ces enfants-là, c'est comme s'il y avait la croyance que si je ne montre pas mes besoins, je maximise mes chances que ma mère reste près de moi. Je ne dois pas montrer de détresse, mais c'est tellement difficile que je détourne mon attention en jouant avec peu importe ce que je trouve sous ma main. Et chez ces enfants-là, évidemment, le niveau de cortisol est quand même assez élevé, donc le calme qu'ils démontrent est plutôt en surface. Et puis, j'avais aussi une de mes professeurs à l'UQAM qui expliquait que souvent, ces enfants-là, on va dire d'eux, « Ah, ils sont tellement tranquilles, ils sont tellement bien élevés. » Mais dans le fond, c'est qu'ils se sont créés une façade parce qu'ils pensent qu'en ne montrant pas leur détresse, en ne montrant pas leurs besoins, ils vont être aimés par leur figure d'attachement. Ensuite, il y a l'attachement insécure de style ambivalent résistant. Environ 10 % des enfants auraient ce style d'attachement-là. Donc là, c'est quand la figure, donc la mère ou le père, n'est pas consistant dans sa manière de répondre. Donc parfois, il répond adéquatement et parfois pas. Donc l'enfant ne peut pas se fier. Il n'y a pas vraiment de base de sécurité. Il ne peut pas se dire « ma mère est là et je peux compter sur elle ». Donc ça fait qu'il va mettre beaucoup, son système d'attachement va être comme trop suractivé. Donc il va toujours... essayer de répondre à son besoin d'attachement au détriment de son besoin d'exploration. Donc, il va montrer beaucoup de détresse lors de la séparation, il va rechercher le contact, il va même avoir de la colère, rejeter sa mère. Il va être difficile à réconforter lors du retour de sa mère aussi. Donc, la croyance que cet enfant-là porte, c'est que je dois en permanence garder mon attention sur ma mère, ce qui laisse peu d'énergie pour explorer le monde. Et chez ces enfants-là, le niveau de stress est quand même élevé, et ce, même en présence de la figure d'attachement. Et le dernier type d'attachement est, encore une fois, insécure. Il s'appelle désorganisé. Environ 10 % des enfants auraient ce style-là. Et là, c'est lorsque la figure d'attachement, non seulement est inconsistante, puis elle protège plus l'enfant, mais même peut susciter la peur. Donc, si on a parfois des cas de négligence, de maltraitance, l'enfant, lors de la situation d'étrange, va manifester des comportements contradictoires aux retrouvailles. Là. Il a l'air désorganisé, il a l'air d'avoir peur, de vouloir se rapprocher, de vouloir fuir. Donc, c'est vraiment, là, pour l'avoir déjà vu dans le cadre d'un cours, c'est vraiment le style de comportement qui est le plus difficile à regarder. Là. Ça brise vraiment le cœur. On voit que l'enfant est complètement désorganisé. Son système d'attachement n'est pas du tout là, cohérent. Mais ce qui arrive, c'est que ces styles d'attachement-là forment ce qu'on appelle, dans la théorie, des modèles internes opérants. Donc ça, c'est dans le fond des manières d'agir, de penser, de percevoir l'information qui sont sous la lunette, sous la loupe de notre style d'attachement. Donc ça va influencer nos comportements, ce qu'on va penser, le genre de sentiments qu'on va avoir par rapport à nos proches. Donc est-ce qu'on va avoir tendance à penser que « Ah, oh, elle est tellement gentille, elle est tellement bienveillante », ou on va plus avoir tendance à être méfiant. Donc, quel genre d'affect on va avoir envers les personnes qui sont proches de nous? Ça va aussi influencer notre attention. Donc, qu'est-ce que je remarque? Est-ce que mon système est en alerte et essaie toujours de percevoir les moindres signes d'éloignement de l'autre? Ça va affecter aussi ma mémoire. Donc, quel souvenir je me rappelle? Quel souvenir je vais repasser dans ma tête et qui va influencer ma perception de la relation? Ça va influencer aussi quel genre d'émotions négatives je vais avoir dans des situations de stress liées à l'attachement. Donc, est-ce que lorsqu'il y a une petite chicane avec mon conjoint, ma conjointe, j'ai tendance à avoir des immenses colères, j'ai tendance à être plutôt coupable. Donc, quel genre de saveur émotionnelle j'ai lorsqu'il y a un léger stress relationnel, léger ou plus intense. Donc, ça affecte notre confiance en les autres. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont présents pour répondre à mes besoins? Ça affecte notre confiance en soi. Est-ce que je suis digne d'amour et de soutien? Ça affecte aussi le sens de l'impact sur les autres en cas de détresse. Donc, est-ce que ma détresse, je peux la manifester à l'autre ou si je dois la garder pour moi comme un peu plus l'attachement évitant a tendance de penser? Donc, le modèle interne opérant sécure qui se manifeste aussi à l'âge adulte, bien, la personne pense que ses besoins et ses émotions sont légitimes, a confiance que les autres peuvent le supporter, sont capables d'entendre leur colère, leur tristesse, leur déception, et aussi ont confiance que les autres peuvent les aider et qu'ils en valent la peine. L'attachement évitant, bien, ça va plutôt ressembler à, comme il est écrit dans le livre, et ici je cite, « J'ai besoin d'être à côté de ma figure d'attachement pour me sentir en sécurité, mais elle pourrait rejeter mes avances. Aussi, dois-je supprimer mes besoins à la fois en moi-même, je ne ressens pas de détresse, et mes besoins d'elle, je me débrouille tout seul. Et rester à la périphérie émotionnellement, et rester à la périphérie des relations, ce qui me permet de demeurer aussi proche d'elle qu'elle peut le supporter. » Donc, dans le fond, c'est comme de minimiser, la personne apprend à minimiser ses besoins d'attachement, d'amour, de proximité, parce que ce qu'elle a appris, c'est que si je manifeste trop, je vais perdre. Donc, j'aime mieux en avoir pas beaucoup qu'en avoir pas du tout. Donc, le troisième modèle interne opérant, celui de l'attachement ambivalent résistant. Donc, encore une fois, ici, je cite l'auteur. « J'ai besoin d'être à côté de ma figure d'attachement pour me sentir en sécurité, mais elle peut échouer à me répondre ou faire intrusion en moi d'une manière que je ne peux contrôler. Aussi, je dois m'accrocher à elle et insister pour qu'elle me réponde et s'occupe de moi, mais je n'ai plus d'énergie pour m'intéresser à moi-même ou au monde qui m'entoure. » Donc vraiment ici, la personne qui a ce type d'attachement-là, de modèle interne opérant, bien dans le fond, va dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie pour capter l'attention de la figure d'attachement ou du conjoint, de la conjointe, de l'ami, tout ça, et aura plus d'énergie pour s'intéresser à elle-même ou à ses passions, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, et l'auteur le souligne très bien, c'est que les modèles internes opérants se développent tout au long de la vie. Donc, c'est pas quelque chose de figé. Si on a eu des parents qui répondaient pas bien à notre besoin d'attachement, ben pour toute notre vie, on réussira jamais à être heureux en relation avec les autres. C'est plutôt quelque chose qui peut justement être transformé par des relations où il y a un attachement sécure. Donc, vraiment, la théorie de l'attachement, pour moi, ça m'inspire autant dans mon rôle de mère que dans toutes mes relations interpersonnelles. Et ça insiste vraiment, dans le fond, sur l'importance de se sentir en sécurité dans une relation. Parce que comme on a vu, il y a le système de l'attachement et le système de l'exploration, et les deux s'annulent l'un l'autre. Donc là, tout d'abord, il faut nourrir la sécurité avant d'aller nourrir l'exploration. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de demander à notre enfant d'apprendre quoi que ce soit, il faut nourrir son besoin d'attachement, lui donner de l'attention, lui donner de l'amour, lui montrer qu'on est disponible émotionnellement et qu'on est prêt à entendre, à valider, à raisonner avec son vécu émotionnel. Avec nos amis, avec nos partenaires, conjoints, conjointes, ce que ça veut dire, c'est un peu, et là je vais citer Marshall Rosenberg de la communication non-violente, « Connect before ». Donc, en premier lieu, avant de dire à notre partenaire « j'aimerais qu'on ajuste ceci, il y a ça qui me dérange, est-ce qu'on pourrait X, Y, Z », bien la première chose à faire, c'est de connecter pour vraiment que la personne sente qu'il y a une sécurité relationnelle. Avant tout, je t'aime et je suis là pour toi. Ensuite, on peut essayer de faire des ajustements. Donc voilà, j'espère que ce moment passé ensemble à parler de l'attachement vous a inspiré, que vous avez appris quelque chose qui va vous être utile dans votre vie. Donc, c'était le livre « L'attachement, un lien vital » de Nicole Guédenet, pédopsychiatre. Je souligne aussi la pièce musicale Sleep de Scott Buckley. Mon nom est Maryse Damoucourt, étudiante au doctorat en psychologie. Merci.